Monsieur, c'est bon, c'est bon. Monsieur l'adjoint au maire de Dijon, monsieur le directeur du campus, mesdames, messieurs, avant de vous donner un éclairage économique de ces 20 dernières années dans les Balkans, je tiens tout d'abord à remercier l'association Bourgogne-Balkans Express de son invitation et remercier les étudiants de Sciences Po qui animent cette association. Les remercier d'avoir eu l'idée d'organiser et de solliciter le secteur privé dans cette réflexion, parce que je pense que le rôle des entreprises dans l'évolution de cette zone et dans l'évolution des Balkans occidentaux est important. Je suis ici, comme ça a été rappelé, avec deux casquettes, celle de Bouygues Construction, qui est mon expérience, puisque je suis directeur général du pôle concession, une responsabilité qui m'amène à travailler dans cette zone, que je connais depuis 1995, date à laquelle on a signé un contrat de concession pour construire une autoroute en Croatie, et comme vous l'avez rappelé, j'y ai moi-même passé 2 ans. Et puis je suis également ici en tant que MEDEF international, au sein duquel je préside le conseil des chefs d'entreprise France-Balkans occidentaux depuis 2005. Je commence par MEDEF International. En ce qui concerne mon expérience personnelle, ce sera peut-être plus pour les questions suivantes. Mais en tout cas, en tant que MEDEF International, c'est une organisation qui a été créée en 89 par le président du MEDEF. À l'époque, ça s'appelait le CNPF, avec mission simple de représenter le MEDEF dans le monde au niveau des 800 000 entreprises qu'il rassemble. Notre objectif est non seulement de promouvoir le savoir-faire français à l'étranger, mais aussi de contribuer, et ça c'est probablement l'aspect le plus important, à l'amélioration du climat des affaires dans les pays sur lesquels nous avons un œil, en faisant valoir les principes directeurs de l'OCDE, la bonne gouvernance, la transparence et, c'est important, la lutte contre la corruption. Pour atteindre cet objectif, MEDEF International organise environ 150 rencontres internationales de haut niveau chaque année. Et ces rencontres réunissent autour des chefs d'État, des premiers ministres ou de ministres étrangers, des entreprises françaises de toute taille et de tout secteur, il y a des PME mais il y a aussi des grands groupes, qui sont en tout cas présentes à l'international. Pour vous donner quelques exemples concrets, nous avons organisé depuis 1989 une quarantaine de rencontres avec les pays des Balkans. Nous avons ainsi souvent reçu au MEDEF le président Tadic, ainsi que les premiers ministres successifs de tous les pays des Balkans. Nous avons organisé également plusieurs délégations sur place, au moins, dans mon souvenir, 4 dans les 3 dernières années. Du point de vue terminologique, le terme de Balkans occidentaux a été officiellement introduit dans le vocabulaire de l'Union européenne à l'occasion du Conseil européen de Vienne de décembre 1998. Il fait référence à 6 pays, Albanie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Macédoine, Serbie, Monténégro. Ce cadre étant défini, je précise que mon intervention portera essentiellement un éclairage économique et que mon propos n'est pas de parler, en tout cas pas essentiellement, de politique, de diplomatie ou de sociologie. Je vais m'efforcer de vous donner le regard du secteur privé français, qui est un regard forcément partial. Il est partial également géographiquement, puisque les entreprises françaises sont essentiellement implantées en Croatie et en Serbie, et assez peu, voire pas du tout, dans les autres pays de la région. En tout cas, notre rôle à MEDEF International est également de promouvoir auprès de la communauté française d'affaires des nouveaux marchés encore peu explorés, et en particulier dans les pays dans lesquels les entreprises françaises ne sont pas suffisamment présentes, dans les pays de cette zone dans lesquels ils ne sont pas suffisamment présents. Je conduirai mon exposé en 2 temps. D'abord, l'évolution globale des paysages économiques dans la région depuis le début du 21e siècle, et ensuite, et je terminerai par cela, les conditions du succès du développement économique des Balkans dans les années à venir, et en particulier du succès des investissements des entreprises françaises dans ces pays. Lorsqu'on est une entreprise, on ne peut pas faire d'impasse sur l'histoire, et en particulier la guerre des années 90 dans les Balkans, qui s'est appelée la guerre civile, la guerre d'agression côté croate, peu importe, a eu des conséquences humaines et politiques tragiques. Elle a eu un impact économique catastrophique. Tous ceux qui travaillent dans la région le savent. Au sortir de la guerre, la Commission européenne évaluait à 3 600 000 le nombre de personnes ayant besoin d'une assistance sur une population globale de 21 millions d'habitants. La Croatie a accédé à l'indépendance amputée d'un quart de son territoire. Les destructions étaient très importantes, en particulier dans la région de Slovénie orientale. En Bosnie-Herzégovine, les infrastructures ont été en partie détruites. En 2001, la production n'atteignait que 10% de son niveau d'avant-guerre et 80% de la population dépendait de l'aide humanitaire. En Serbie, les effets désastreux de la guerre sont aggravés par les sanctions économiques imposées par la communauté internationale jusqu'au départ de Slobodan Milosevic. En 2001, la production industrielle serbe avait chuté de 65% par rapport à 1991. Le chômage dépassait officiellement les 30%, l'endettement extérieur atteignait quasiment 100% du PIB, l'inflation dépassait les 100%. Le secteur bancaire sinistré a dû être complètement restructuré, et l'économie grise représentait quant à elle 60% du PIB. Il a fallu attendre une normalisation sur la scène politique et une véritable volonté de réforme des gouvernants pour que la communauté internationale puisse apporter une aide à la reconstruction de plus $1 milliard. On l'a vu, le Club de Paris et le Club de Londres ont accepté d'effacer une grande partie de la dette héritée de l'ancienne Yougoslavie. Le FMI, la Banque Européenne d'Investissement, la BERD, la Banque Mondiale ont largement contribué au redressement économique de la région. L'Union Européenne a quant à elle dépensé plus de 7 milliards d'euros pour les pays de l'ex-Yougoslavie et l'Albanie. Pourtant, aujourd'hui, les analystes considèrent encore que le PIB par habitant des pays de l'ex-Yougoslavie et en Slovénie est encore de moitié inférieur à celui de 89. C'est dire si la guerre a laissé des traces. Le passage à l'économie de marché s'est fait de façon très différente d'un pays à l'autre. En ce qui concerne la mise en œuvre des réformes, la Croatie s'est distinguée assez rapidement. Malgré un déficit commercial en hausse du fait d'une consommation interne élevée, la bonne santé économique du pays devrait lui permettre d'intégrer facilement le marché européen. Elle est d'ailleurs en phase finale de négociation de l'acquis communautaire. On pense que d'ici cet été, leur adhésion devrait être acquise. La Croatie bénéficiait d'une croissance soutenue depuis 2000 et d'une inflation stabilisée, mais une dette extérieure trop importante de 85% du produit intérieur brut en 2006 et un processus de restructuration industrielle et privatisation trop lent ont contribué à fragiliser l'économie nationale. À la veille de la crise internationale de 2008, la croissance économique était également forte en Albanie, 6%. Elle s'accélérait au Monténégro, se poursuivait en Serbie, malgré une inflation et un déficit extérieur élevé. Quelques chiffres qui indiquent à la fois le potentiel de rattrapage de la région, mais également des facteurs fragilisants que la crise internationale a mis en évidence. Le déséquilibre des balances extérieures a creusé les déficits budgétaires et contraint des gouvernements à la dévaluation, moins 30% en Serbie. Les économies serbes et croates ont néanmoins pu résister relativement bien à la crise financière. Leur secteur bancaire a été privatisé au début des années 2000. Il appartient à 80% maintenant à des banques étrangères. Par l'initiative de Vienne lancée sous l'égide du FMI, celles-ci se sont engagées à ne pas modifier leur exposition dans la région et à assurer une capitalisation de leurs filiales. Cela n'a pas suffi à compenser les effets de la baisse de la demande intérieure et la difficulté d'accès au financement extérieur. À titre d'exemple, nous avons, à MEDEF International, beaucoup ressenti cette détresse des gouvernements. Elle s'est concrétisée pour certains par un recours au FMI, s'il s'agissait de 4 milliards pour la Serbie. Nous avons aussi reçu au premier semestre 2009 le président serbe, le premier ministre croate, le premier ministre albanais, le premier ministre macédonien. Ils sont tous venus nous expliquer et expliquer aux investisseurs français les mesures qu'ils prenaient pour faire face à la crise. Surtout pour les rassurer et les assurer du maintien et de la préservation des actifs étrangers dans leur pays. Néanmoins, les investissements directs étrangers sont encore relativement faibles dans la région, dans les Balkans occidentaux, malgré les progrès accomplis depuis la fin des années 90. Pourquoi ceci ? Pour quelles raisons ces investissements étrangers sont-ils faibles ? Et par cela, j'aborderai la deuxième partie de mon exposé, c'est-à-dire les conditions du succès. La France, comme vous le savez sans doute, est le troisième investisseur international. Pourquoi la France est-elle aussi peu présente dans les Balkans ? Et pourquoi l'ensemble des entreprises françaises sont-elles aussi prudentes à l'égard de cette région ? Est-ce à cause de la taille du marché ? Probablement pas, puisque le CEFTA de 2006, qui regroupe les pays du Central Free Trade Agreement, zone de libre-échange, rassemble plus de 25 millions de personnes, en incluant la Moldavie. Si l'on inclut à cela les accords bilatéraux passés par exemple par la Serbie avec la Russie, l'Ukraine, la Turquie, la Biélorussie, vous avez un marché de plus de 250 millions de personnes que vous pouvez toucher, donc ce n'est pas la taille du marché. Est-ce la qualité de la main-d'œuvre? C'est quelque chose que moi j'ai vécu sur place. C'est un critère essentiel lorsqu'une entreprise s'implante. Des progrès sont à accomplir, certes, mais le niveau de formation, et je pense que toutes les entreprises présentes sur place vous le diront, il est très bon. Le niveau des salaires est très compétitif par rapport à l'Union européenne, et les gens, malgré cette compétitivité, sont extrêmement bien formés. Est-ce le secteur financier? Sans doute pas. Comme je viens de le dire, le secteur financier dans les deux principaux pays de la zone, que sont la Croatie et la Serbie, a été restructuré, il est solide. Il permet un accès relativement facile au financement et au financement de projets dans la région. Nous en avons bénéficié. Notre infrastructure est financée pour moitié et structurée pour moitié par des banques locales, la Verbatska Banka en l'occurrence. En réalité, l'intégration commerciale des Balkans reste concentrée entre la Serbie et la Croatie, la Bosnie-Herzégovine et le Monténégro. La Croatie et la Serbie sont des pays les plus exportateurs. La Serbie exporte d'ailleurs près de 4 fois plus qu'elle n'importe dans la région. Ses exportations ont progressé de plus de 40% entre 2006 et 2008 avec l'ensemble des pays des membres du CEFTA. Malgré cela, l'Union européenne demeure le premier partenaire commercial des pays du Balkan occidentaux. La zone n'a pas retrouvé son degré d'intégration d'avant-guerre. La zone n'a pas retrouvé cette imbrication entre les pays de la zone qu'elle avait avant-guerre. Sans doute par manque d'infrastructures énergétiques et de transport. Je ne vais pas revenir dessus, mais l'absence d'infrastructures de transport est un élément clé du retard de développement économique de la région. Je prends par exemple le réseau routier que je connais bien, il s'est amélioré, mais il est encore difficilement praticable. 45% des routes du réseau régional sont en très mauvais état, 55% en Albanie. Je n'évoque même pas le réseau ferroviaire. Pour 82%, il est extrêmement vétuste, il a besoin d'investissement et de restauration. Ceux qui ont circulé là-bas dans la région savent que la vitesse des trains est limitée à 30-40 km sur bien des tronçons. Pour y remédier, un certain nombre de corridors européens ont été dessinés après la fin des conflits, notamment le corridor pan-européen 10, avec 2300 km de routes, de rails reliant Salzbourg et Thessalonique. Les financements européens et internationaux sont prêts. Ces projets de développement d'infrastructures sont fondamentaux, ils existent, mais ils tardent à se réaliser. Pourquoi ? Je dirais que ma réponse, elle tient en trois mots et je conclurai là-dessus, c'est stabilité, stabilité, stabilité. Ce dont les entreprises ont besoin, c'est stabilité juridique, stabilité institutionnelle et stabilité politique. Pour commenter brièvement ces trois mots, il faut un cadre législatif national dans chaque pays pour assurer la mise en œuvre des projets de développement, des projets d'infrastructure en particulier. Je suis, et MEDEF est un large promoteur des cadres de développement en partenariat public-privé qui associe l'État, les partenaires financiers, les entreprises individuelles et les entreprises privées, pardon. Et au départ des projets d'une telle taille et d'une telle envergure, il est nécessaire d'avoir des appels d'offres transparents avec définition claire des cahiers des charges, définition claire des garanties données ou pas données. Ce sont des conditions qui paraissent simples dans un pays comme la France, qui est un des leaders en matière de PPP, mais qui sont très difficiles à mettre en œuvre dans des pays, j'allais dire, ex-communistes, mais en tout cas où l'État était, il y a une vingtaine d'années, omniprésent, et où on parle encore d'autogestion, et où les investisseurs étrangers, sans critiquer parfois le nationalisme excessif de ces pays, mais où l'investisseur étranger peut encore apparaître comme un prédateur que comme un partenaire de long terme. Et à ce titre-là, l'exemple des roues est tout à fait emblématique. Il faut également pas se voiler la face. L'instabilité politique et juridique contribue également à la faible attractivité de la région. En matière civile et commerciale, comme en droit des affaires, la législation est insuffisante. Quand elle existe, elle souffre d'une exécution déficiente. dans le cadre des affaires, elle a largement évolué, dans le bon sens, il faut le reconnaître, mais sans toutefois être partout applicable à l'échelle nationale. Mettre en œuvre des partenariats publics-privés, ça demande des capacités administratives importantes, ça demande la formation du personnel de la fonction publique, mais également une visibilité juridique sur le moyen et le long terme que les investisseurs privés ont parfois du mal à trouver en face. Corollaire de tout cela, la modernisation de l'industrie dans la région nécessite des privatisations dans un certain nombre de secteurs, notamment financiers, télécom, automobiles. Ça a déjà été largement entamé, en particulier en Serbie. Mais le retard pris par ces projets de privatisation retarde évidemment la recherche d'investissements nouveaux et en particulier de partenaires étrangers. Voilà, l'enjeu actuel est considérable. Il s'agit de parvenir à dépasser une image relativement négative, il faut bien le dire, en Europe et en France des Balkans. Elle est trop répandue. En tout cas, merci d'avoir organisé ce colloque pour essayer de contribuer à faire évoluer les mentalités.